bon nombre des traits de la personnalité de l'Esprit Saint que nous avons toujours à découvrir. Et ce qui est intéressant dans cette prière, c'est qu'on appelle l'Esprit Saint sur nous, vient en nous, etc. On se tourne vers Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et on demande que l'Esprit Saint vienne en nous. Or, par cette expression de la prière, en fait, on exprime la volonté même de Dieu, parce que le principe même de l'Esprit Saint, qui est l'Esprit Saint, c'est Dieu en tant qu'il se donne, en tant que, justement, l'Esprit Saint, c'est Dieu qui, celui qui vient en nous. Et c'est le désir même de Dieu de nous envoyer son Esprit Saint. Donc, quasiment, normalement, on n'a pas besoin de dire l'Esprit Saint vient, parce que c'est évident que l'Esprit Saint vient. Si vous voulez, Dieu nous aime. Et Dieu, pour nous rendre, pour nous aimer, qu'est-ce qu'il fait? En fait, Dieu envoie son Esprit Saint. Dieu du ciel, aime chacun d'entre nous individuellement. Chacun d'entre nous peut dire ça, je suis aimé de Dieu. Et ce qui se passe en Dieu pour que Dieu nous aime, l'action que pose Dieu dans cet acte d'amitié pour chacun d'entre nous, c'est d'envoyer son Esprit Saint. Alors, d'invoquer l'Esprit Saint en disant « Viens en nous », bien c'est un petit peu se rendre disponible à cette amitié de Dieu pour nous, de se rendre disponible à l'amour de Dieu pour nous. Donc, bon, ben, soyez-y attentifs, tout simplement, en particulier pendant cette retraite. S'il y a une chose que vous devez faire pendant une retraite, finalement, peu importe les enseignements, peu importe tout ce qui va s'y vivre, il y a une seule chose qui compte, c'est que vous rencontriez Dieu. C'est que vous vous rendiez compte de Dieu dans votre vie, donc de l'Esprit Saint. C'est que vous vous rendiez compte de cet amour fou de Dieu, l'amitié du Christ pour vous, c'est qu'il est mort pour chacun d'entre nous, etc. Alors voilà, faites de cette retraite un temps de vraie rencontre avec Dieu. Que le Christ enfin devienne votre ami et que l'Esprit Saint enfin puisse habiter votre cœur, qu'il puisse habiter votre âme. Voilà, ça ne sert à rien de venir à Montdijon, ça ne sert à rien de faire une retraite si au fond de soi on ne désire pas Dieu, on ne recherche pas Dieu de cette manière. Alors, je vous invite à être attentif à Dieu. En particulier, peut-être, pendant le temps de lecture régulière, tout à l'heure, c'est bien, de se laisser imprégner par la parole de Dieu. Et puis aussi, ce soir, je pense, au temps de confession, c'est toujours un moment très privilégié. Est-ce que vous avez une page, dans vos livres où vous prenez des notes? Le but de la vie chrétienne. Le but de la vie chrétienne. Le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition de l'Esprit Saint. Le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition de l'Esprit Saint. C'est notre but. C'est le but de notre vie. À quoi ça sert de vivre? Ben, ça sert à recevoir l'Esprit Saint. C'est la finalité de notre être. Le sens de ma vie, c'est ça. Je suis sur terre pour recevoir l'Esprit Saint. Le but de la vie chrétienne, bien sûr, c'est l'acquisition de l'Esprit Saint. Le terme entre guillemets, c'est Saint Séraphin de Saros qui a dit ceci. Vous ne connaissez sans doute pas Saint Séraphin de Saros, c'est un saint de l'orthodoxie, donc il est très connu par les orthodoxes.
C'est Séraphin.
Tout le monde voit le tableau là, oui. Notre vie chrétienne, notre relation à Dieu est fondée sur le don du Saint-Esprit. Votre histoire avec Dieu, votre religion, votre relation à Dieu, votre attachement à Dieu, c'est finalement l'œuvre de l'Esprit Saint dans votre âme. Et alors, Dieu, comme on l'a dit ce matin, on le rejoint à travers trois actes, la foi, l'espérance et la charité. La foi, c'est de connaître Dieu. L'espérance, c'est d'attendre qu'il nous donne l'Esprit Saint. et la charité, c'est de demeurer uni à lui. Bien, la foi, déjà elle-même, la foi, le fait de connaître Dieu, pour prétendre pouvoir appeler Dieu Père, rien que cela, c'est un don de l'Esprit Saint. Aussi, toute la foi, toute la reconnaissance du mystère du Christ, par exemple, l'accueil de l'Évangile, l'accueil du fait que Jésus soit vraiment fils de Dieu, tout ça, c'est un don du Saint-Esprit. Vous vous souvenez, la confession de foi de Pierre, quand il dit à Jésus, enfin Jésus pose la question, pour vous, qui suis-je? Pierre répond, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Et Jésus lui répond, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, donc il nomme son père, heureux es-tu, Simon, fils de Jean, fils de Jonas, ce que tu viens de dire là vient de mon Père qui te l'a révélé. Donc c'est encore un don du Saint-Esprit dans l'intelligence de Pierre qui a permis que Pierre reconnaisse en Jésus l'Esprit Saint. Donc tout s'enracine dans le don du Saint-Esprit. Saint Paul, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie Abba, Père. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie Abba, Père. C'est dans les Galates, chapitre 4, verset 6.
C'est quoi les Galates?
Je vous invite à bien noter ces références, et puis pendant le temps de Lectio Divina, si vous en avez le loisir, de y revenir avec votre... Vous avez tous un Nouveau Testament? J'espère. Hein. Donc notez les références et vous pourrez y revenir.
Alors, on se tait, le père prenez-moi. Est-ce qu'on peut reprendre la première pour ceux qui n'ont pas eu le temps de le faire? Première citation. Alors, on y va.
Le but de la vie chrétienne.
Le but de la vie chrétienne.
Il y a une question tout au fond. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie Abba, Père. Galates 4, 6. Dieu a envoyé dans nos cœurs. Je vais vous faire un nom. Il faut reprendre les notes, hein. Vous pouvez y arriver comme ça. Dieu a envoyé dans nos cœurs. Oui, il est extrêmement bien parce que vous ne savez pas la même chose. Galates 4, 6. Voyez-vous, je vous disais tout à l'heure, ce matin, que se réalise en nous la vie du Fils, la vie du Christ. Si vous priez notre Père, tout à l'heure on vient de prier notre Père, alors on a récité notre prière, vous savez, comme les petits-enfants. Oui, il y a deux manières de prier. Ou bien vous récitez votre prière, ou bien vous vivez vraiment votre prière. Et normalement, en chrétien, le chrétien, quand on vit ce notre Père, quand on ose s'adresser à Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre et de la terre, ça veut dire que, en fait, l'acte que nous posons, que nous sommes en train de poser en nous tournant vers Dieu Père, c'est un acte du Christ. Pensez à ça, Jésus, le Christ, est le Fils unique de Dieu, est l'unique Fils de Dieu. Donc seul lui seul, peut appeler Dieu Abba, Père. Et si tous les chrétiens le font, en fait, ce n'est pas les chrétiens qui le font, c'est le Christ en nous. Pensez à cela. Quand vous dites la prière du Notre Père, ce n'est pas vous, c'est Jésus. Quasiment, je force un peu loin les traits, quasiment in persona Christi. C'est du latin.
Mais créante.
Vous êtes le Christ en train de prier. Il n'y a pas de prière hors. Et quand un chrétien, quand vous vous tournez vers votre crucifix à la maison, gentiment, n'est-ce pas, j'espère que vous avez gardé cette bonne habitude de votre enfance, vous tournez vers le crucifix, vous récitez votre Notre Père, c'est le Christ qui prie en vous. Vous êtes dans la prière de l'unique Fils qui peut se prétendre, qui peut se permettre d'appeler Dieu Père. Et bien, c'est ce que dit Saint Paul, c'est ce que disait déjà Jésus. Hein. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie Abba, Père. Galates 4, 6.
Galates 4, 6.
Galates 4, 6.
La prochaine.
On est hissé de par l'Esprit Saint, on est hissé au niveau de la Trinité. Alors c'est ce que j'ai écrit là, mais c'est trop précis. Je vais recommencer un peu.
Ça va.
Le Père, le Fils et Saint-Esprit, il y a une vie. C'est le Fils Jésus, le Christ, en éternité de Dieu. Est tourné vers le Père. Et il y a une vie entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la communion du Père et du Fils. C'est le don du Père au Fils et le don du Fils au Père. C'est l'amour qui les unifie tous les deux. Donc finalement, tous les trois. Une vraie personnalité au Saint-Esprit. Eh bien, quand on est chrétien, par la grâce du baptême, par la grâce de votre confirmation, par la grâce de votre communion eucharistique, par la grâce de toutes vos confessions, à chaque fois, on est hissé au niveau de la Trinité. Et nous sommes le Fils en train de prier le Père dans l'Esprit Saint. Et ça, c'est vraiment donc l'œuvre, l'Esprit Saint en vous. L'Esprit Saint transforme votre être pour faire de vous des Christ et vous faire vivre dans la Trinité. Ou plutôt, ou aussi, se réalise en vous la vie de la Trinité, du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Donc réellement, on est divisé par le don du Saint-Esprit. Hein? Je vous disais tout à l'heure, ce matin, on n'est pas, il n'y a pas une moi, puis quelque part en moi, l'Esprit Saint avec toute la Trinité. Non, on est assumé et c'est notre volonté, notre liberté propre reste tout à fait intacte et ferme. Dans l'Esprit Saint, on devient Christ et on s'adresse au Père. Voilà, donc on est vivant de la vie même de la Trinité. Alors ça commence donc par la foi, on reconnaît que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et tout cela, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. On ne peut pas deviner tout seul les mystères du Christ sans le don du Saint-Esprit. Nul ne connaît ce qui concerne Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Dieu est tellement inconnaissable qu'on a besoin de cet Esprit Saint pour pouvoir le connaître Dieu. Et à chaque fois que nous posons un acte, je pense moi surtout aux actes dans la liturgie, le fait d'assister à la messe, c'est pas nous qui assistons à la messe. Évidemment que quand un prêtre célèbre la messe, il est à la place du Christ, quoi. Il est le Christ qui guide toute son Église. Eh bien, à la messe, toute l'assemblée est complètement saisie par la présence de l'Esprit Saint et chacun des membres de l'assemblée représente tous les membres du corps du Christ rassemblés. Donc c'est vraiment une œuvre, l'œuvre de Dieu. Vous savez, c'est le premier dialogue à la messe. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Ce dialogue-là, ce petit échange, nous saisit toute l'assemblée, comme le prêtre est là, dans l'Esprit Saint. Et on est tous sur terre, si vous voulez. On est dans la Trinité. On est au ciel.
C'est compliqué ce qu'il raconte. Il faut vous concentrer, vous ne pourrez rien comprendre.
Oui, mais c'est une idée.
C'est
important
que ça soit en vous.
On le retrouve présent dans toute l'histoire de Dieu avec les hommes, si vous voulez. Dès le départ, c'est l'Esprit Saint qui a inspiré l'Écriture sainte. Ceux qui ont écrit les textes sacrés depuis Moïse, traditionnellement, pour faire court, jusqu'à donc Saint Paul ou Saint Jean, qui ont écrit les derniers textes du Nouveau Testament, ils écrivaient librement, comme des auteurs. Ils sont auteurs des lettres, auteurs des évangiles, etc. Auteurs des prophètes qui ont pu écrire. Hein, ils n'étaient pas en état de... en transe, si vous voulez. Ils étaient vraiment bêtes d'eux-mêmes. Hein. Mais ils étaient dans cet état qu'on appelle mystique. Ce n'est pas un état de transe, c'est un état où la personne garde toute la possession de sa liberté. Mais en même temps, c'est l'Esprit Saint vraiment qui leur permettait d'écrire ces textes qui nous sont transmis dans l'Écriture Sainte. Donc, on peut dire que, par exemple, pour les textes de l'Évangile, on peut dire que, à la fois, l'Évangile, pour le premier Évangile, c'est Matthieu, on peut dire que Matthieu est l'auteur de l'Évangile, mais en fait, c'est l'Esprit Saint aussi bien qui est l'auteur de l'Évangile. Et tous les mots sont extrêmement précis, puisque ce sont les mots choisis, entre guillemets, par l'Esprit Saint pour nous parler de la vie du Christ. Et on verra en lisant tout à l'heure, par exemple, l'Évangile concernant la Vierge Marie, combien chaque mot est important pour nous parler du mystère de Dieu et du mystère en particulier de Dieu qui aime les hommes, donc de Dieu qui donne son Esprit Saint pour sauver les hommes. C'est particulièrement important pour la Vierge Marie. Donc l'Esprit Saint est présent dans les Écritures. Il est présent aussi dans ce qu'on appelle la tradition, avec une grande T. Notez que l'Écriture et la tradition, ce sont les deux piliers sur lesquels repose la foi de l'Église. Parce que l'Écriture, ce sont les textes écrits, mais on n'enferme pas Dieu dans des textes écrits. Dieu est infiniment plus grand que tout ce qui peut être écrit. Parce que finalement, ce qui reste écrit, c'est un support matériel, si vous voulez. Mais ce qu'on appelle la tradition, c'est toute la première interprétation, la première compréhension des textes écrits. De quelle manière ces textes ont ils été écrits, dans quel climat ecclésial ces textes ont ils été écrits et dans quel climat ecclésial aussi ont ils été écrits. Donc retenez que l'Écriture sainte et la tradition, alors grosso modo la tradition pour faire court, ce sont tous les écrits aussi, toute la pensée, toute la théologie des premiers évêques qui ont lu l'Écriture sainte et qui l'ont commenté. On a, en lisant tous les écrits des premiers évêques, vous en connaissez, vous connaissez Saint Augustin, vous connaissez Saint Ambroise, vous connaissez ce qu'on appelle les pères de l'Église, peu importe. Tous ces gens-là, c'était les premiers évêques jusqu'au 8e siècle quasiment. Ils sont vraiment le parfait reflet dans leur pensée, donc on étudie beaucoup leur pensée. On appelle la tradition. L'Écriture sainte et la tradition. Je dis ça, c'est important. Nous vivons de l'Esprit Saint. Nous sommes une religion vivante. Nous rencontrons vraiment le Christ. On va vous dire que le christianisme est une religion du livre. C'est faux. Le christianisme est une religion du Christ vivant ressuscité. Vous le mettez, ça, si vous voulez. Nous sommes une religion du Christ vivant ressuscité. On n'est pas une religion du livre comme le judaïsme ou comme l'islam. On a l'Écriture sainte, c'est vrai, qui est un texte vivant puisque inspiré de l'Esprit Saint, mais on a aussi la tradition, et tout un ensemble qu'on ne peut pas balder, si vous voulez, c'est pas matériel, sous l'esprit dans lequel l'Écriture a été mise. Nous sommes une religion vivante, ce n'est pas une religion d'un livre figé. La tradition. Aujourd'hui encore, l'Esprit Saint continue d'assister, de soutenir, par exemple, le pape. Quand il écrit quelque chose, en particulier, vous savez que le pape, le mercredi, écrit une audience qui sert de catéchèse pour l'Église universelle. Eh bien, tous les textes qu'écrit le pape, les encycliques, les deux encycliques, une sur l'amour et une sur l'espérance, une sur la charité et une sur l'espérance, tout ce qu'écrit le pape pour l'Église universelle, c'est inspiré profondément de l'Esprit Saint. Et vous savez qu'on dit que le pape a ce charisme de l'infaillibilité. Donc ça, c'est vraiment... Ça ne peut pas être un homme qui a un tel charisme. Ça vient nécessairement de Dieu. Donc, on appelle ça, vous pouvez noter ça, le magistère. Le magistère, c'est l'enseignement de l'Église. Jusqu'à encore aujourd'hui. Tout ça, ce sont des lieux où l'Esprit Saint agit. Le magistère, c'est l'enseignement de l'Église. Donc vous avez l'Écriture sainte, qui est la révélation écrite, la tradition, qui est l'interprétation juste de l'Écriture sainte, vous avez le magistère, ce sont des lieux où l'Esprit Saint est vivant et anime l'Église. Un quatrième lieu, et c'est celui-là qui nous intéresse, c'est la liturgie. La liturgie, c'est ce que nous vivons dès qu'on est dans une église, que le prêtre s'habille en blanc et qu'on commence par au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Tout acte liturgique commence comme ça, que ce soit la messe, ça pourrait être aussi la confession, c'est souvent en église. Ce sont des actes où c'est l'Esprit Saint qui va agir en nous. Ce n'est pas nous qui agissons. Vous savez ce que signifie le mot liturgie? C'est un terme grec. Liturgie. Je vais vous le faire en anglais. C'est important. C'est pas l'action d'un peuple quel qu'il soit. C'est l'action du peuple de Dieu. Et finalement, ça se résume à être l'action de Dieu. La liturgie, c'est la vie du Christ aujourd'hui dans tous ses membres que nous constituons en Église. L'Église, c'est l'ensemble des membres du corps du Christ. Eh bien, c'est quand ce corps se met à vivre, quand l'Église se met à vivre, que nous vivons de la liturgie. Et donc, évidemment, nous sommes hissés au niveau de la Trinité, et là, c'est l'Esprit Saint qui agit dans chacun de nos membres. Donc la liturgie, donc tous les sacrements, ce sont des actes liturgiques, c'est-à-dire ce sont des actes qui donnent réellement la grâce de l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint vit vraiment en chacun d'entre nous. Mais au-delà de la liturgie, à chaque fois que vous allez vouloir, indépendamment d'une action liturgique, donc en faisant du prêtre et tout, officiel, structuré, à chaque fois que vous allez vouloir prier, bien comme on vient de faire tout de suite, l'Esprit Saint aussi anime votre cœur, anime votre esprit, pour peu que vous priez honnêtement et que vous ne vous concentrez pas de réciter les prières. Tout ça pour dire que nous ne sommes jamais seuls. Nous sommes toujours, parce que nous sommes toujours aimés de Dieu, l'Esprit Saint est toujours au fond de notre cœur et à la source de chacun de nos actes, à la source de chacun de nos désirs, à la source de notre volonté. Ce que nous voulons, c'est l'Esprit Saint qui nous l'insuffle, qui creuse en nous nos désirs, qui creuse en nous notre capacité à agir, etc. À l'œuvre dans l'Écriture sainte. Alors, il y en a parmi vous qui ont des Bibles complètes. Certains, vous avez peut-être le Nouveau Testament. Donc, si vous avez des Bibles complètes, vous pouvez, on va voir la toute première page.
Ah, c'est ça, c'est grave. C'est ta Bible, elle est même de Marie-Laure.
Au commencement, c'est le début, il y a deux versets. Faites un peu de silence. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était vide et vague. Les ténèbres couvraient l'abîme. Un vent de Dieu tournoyait sur les eaux. Ce vent de Dieu, il a traversé toute la Bible jusqu'à ce qu'on ait compris grâce à la révélation du Christ qu'il y avait un Esprit Saint, l'Esprit du Christ qui devait nous être envoyé. Ce sont les promesses du Christ. Et une fois qu'on a compris cette existence de l'Esprit Saint, c'est surtout à la Pentecôte quand les apôtres ont reçu l'Esprit Saint, qu'en relisant la Bible, ils ont compris que depuis le début, au commencement, un vent de Dieu tournoyait sur les eaux. c'était un signe de la présence de l'Esprit Saint, non seulement dans toute l'œuvre de Dieu, mais aussi dans toute l'Écriture. Et donc tout le plan de Dieu, depuis le premier verset jusqu'à la dernière Pentecôte, la Jérusalem céleste, dans les visions de l'Apocalypse, où toute l'Église sera rassemblée dans la gloire du ciel, etc. Tout ça, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, on le retrouve donc absolument partout. Et à chaque fois que Dieu va vouloir intervenir auprès des hommes, c'est finalement l'Esprit Saint lui-même qui va intervenir. Vous connaissez sans doute, allez voir Genèse chapitre 15.
Hein?
Genèse chapitre 15, verset 17. Genèse 15, 17. C'est l'histoire d'Abraham, la première alliance que Dieu a scellée avec Abraham. Abraham, on peut dire que c'est le premier homme à qui Dieu est parlé. Eh bien, Dieu avait demandé à Abraham de préparer un sacrifice, donc d'immoler des animaux, de tuer des animaux, et de les laisser comme ça en plein ciel, quoi, curieusement. Alors que normalement, quand on voulait offrir un sacrifice à Dieu, on prenait un animal, et puis on l'immolait, on le tuait, et en général, on le brûlait, tout simplement. On faisait ce qu'on appelle un holocauste. On brûlait pour que la fumée qui monte, eh bien, monte jusqu'à Dieu. Et là, Dieu a demandé à Abraham de ne pas les brûler. Et au verset 17, qu'est-ce qui se passe ? Quand le soleil fut couché, que les ténèbres s'étendirent, voici qu'un four fumant et un grand nombre de feu passèrent entre les animaux partagés. Ce jour-là, Yahvé conclut une alliance avec Abraham en ces termes, etc. Puis c'est toute la promesse des descendants. Le feu, cette fois-ci, c'est pas Abraham qui l'a allumé pour brûler le sacrifice qu'il voulait offrir à Dieu. Il est directement descendu du ciel. Un four fumant et un brandon de feu. Bref, quoi. C'est descendu du ciel. Pour dire que ça, c'est l'Esprit Saint qui scelle l'alliance entre Dieu et les hommes. On n'est plus, avec l'Esprit Saint, on n'est plus un peuple qui cherche son Dieu. C'est Dieu qui vient chercher son peuple. C'est Dieu qui se révèle à son peuple. C'est Dieu qui est présent au milieu de son peuple. Le don de l'Esprit Saint qui fait de vous des baptisés, qui fera de vous des confirmés, par vos communions aussi, vous êtes en communion directe avec le Christ ressuscité, vous êtes le Christ ressuscité. C'est le don de l'Esprit Saint, c'est Dieu qui descend jusqu'en nous, tellement il nous aime, tellement il est fou d'amour pour nous, et qui donc nous relève. On n'est pas en train de chercher Dieu, Dieu, qui es-tu, viens en moi. Non, l'Esprit Saint descend, l'Esprit Saint vient. L'Esprit Saint habite notre être, et finalement nous sommes... qui était Jésus? Jésus, on dit qu'il était le Christ, celui qui est complètement rempli de l'Esprit Saint. Et bien l'Esprit Saint fait la même chose de nous. Il assume notre personne pour faire de nous des Christ, des personnes remplies d'Esprit Saint. Et si vous pouvez lire toute la Bible comme ça, il y a énormément, vous voyez, jusqu'au 15e chapitre de la Genèse, à chaque page quasiment, il y a des manifestations de l'Esprit Saint avec Moïse. Bon, évidemment, vous connaissez l'histoire de Moïse. Toute la Bible comme ça est imprégnée de cette présence de l'Esprit Saint qui guide, qui forge le peuple à partir d'Abraham, qui nous guide, qui traverse la mer rouge, pensez à la colonne de nuée, la colonne de feu, le jour et la nuit, qui accompagnait les Hébreux dans le désert à partir du moment où ils ont traversé la mer rouge. Pensez aussi quand ils sont installés dans le temple à Jérusalem, en Terre Sainte, donc pour la dédicace du temple, pour la consécration du temple, et bien les nuées aussi, de la même manière, qui est descendue du ciel, qui a envahi le temple de Dieu. L'Esprit Saint, donc, se rendait présent. Alors on disait, c'est la nuée de Dieu, c'est la présence de Dieu au milieu des hommes, c'est... mais on n'appelait pas Esprit Saint comme nous l'appelle, mais ça fait bien que lui-même Esprit Saint, l'Esprit Saint, c'est pas un nom, quoi. Aussi bien le Père et le Fils, on voit de qui il s'agit. L'Esprit Saint, c'est pour dire que ça reste une présence ineffable, mais c'est quand même une réelle présence à l'intérieur de lui. Alors maintenant, on va regarder un petit peu plus l'Évangile pour nous approcher de notre vie chrétienne et de comprendre un petit peu, en particulier, la place de la Vierge Marie. Je crois que vous avez le texte dans votre livret de l'Annonciation. Mais je ne sais pas vous dire à quelle page. Page 29. Alors, on va prendre 2 minutes de silence. Où chacun, vous allez lire ce texte en silence. Chacun pour soi. Vous avez un petit mot qui n'a l'air de plus. Dans la salutation de l'ange, je te salue, l'ange entra chez elle et dit, je te salue, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Dans ces deux mots-là, comblé de grâce et le Seigneur est avec toi, l'Église a compris, donc c'est, vous voyez, c'est la phase de la tradition par rapport à l'Écriture sainte, l'Église a compris que Marie était Immaculée Conception, c'est-à-dire dès son premier instant, dès sa conception, complètement indemne de tout péché, par la grâce de la mort et de la résurrection du Christ lui-même. C'est l'accomplissement de la mort et de la résurrection du Christ en Marie qui a commencé dès la conception de Marie. Vous voyez, ça c'est un grand, grand mystère. Et donc, elle était comme préservée, privilégiée, c'est un privilège, etc., d'être Immaculée Conception. Rien qu'avec ce petit mot, je te salue, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Et vous comprenez pourquoi les chrétiens sans cesse répètent cette phrase. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. On le répète sans cesse pour se l'imprégner complètement, parce que c'est notre plus cher désir, finalement, que notre cœur aussi ressemble au cœur de Marie, Immaculée Conception. Que notre cœur pénètre cette pureté de Marie. Alors, tout à l'heure, pendant le temps, l'exercice de lection divine, vous allez avoir, vous pourrez aller dans la basilique, vous pourrez aller dans, en particulier peut-être, mais vous ne rentrerez pas tout, tout à fait, dans l'abside, où vous avez le Saint-Sacrement qui est exposé, si vous voulez. Allez où vous voulez, vous allez dans le calme. Vous vous répétez cette phrase-là. Vous n'allez pas forcément rester votre chapelet, mais répétez-vous cette phrase. Je te salue, comblé de grâce. Je te salue, Marie. Je te salue, comblé de grâce. Le Seigneur est avec toi. Et c'est l'ange qui dit cela, qui le dit à Marie. Et dans votre lecture divine, vous pouvez vous dire que cette parole, c'est l'ange qui vous le dit à vous. Et donc c'est vous qui êtes l'ange et qui le dites à Marie. Enfin, vous voyez, vous jouez le rôle comme vous le voulez, comme vous le désirez. Et puis, vous allez encore prendre votre stylo, et vous allez rajouter à la fin de ce texte biblique la réponse de Marie qui a été coupée là. Vous avez jusqu'au verset 35. Et au verset 38, Marie dit à l'ange, vous pouvez rajouter 38, Marie dit alors, devant les guillemets, Marie dit alors, je suis la servante du Seigneur. Marie dit alors, je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Ferme les guillemets. Et l'ange la quitta. Écrivez ceci. Et moi je vous invite, pendant votre lecture divina, à répéter aussi cette phrase. Je suis la servante du Seigneur. C'est Marie qui dit ça. Mais Marie le dit en vous. Je suis la servante du Seigneur. Et voyez, comment est-ce qu'on devient chrétien ? Par le don du Saint-Esprit. Mais comment est-ce que, concrètement, notre cœur se forge pour ressembler au cœur de Marie ? Eh bien, en adoptant la même attitude qu'elle a eue, elle, quand elle a reçu cette visite de l'ange. Une disponibilité totale à l'ange, et parce que lui demandait Dieu. Pour nous, c'est pareil. Il nous est demandé, dans notre vie chrétienne, son but, c'est l'acquisition de l'Esprit Saint, une disponibilité totale à l'Esprit Saint. En disant, en répétant, je suis la servante du Seigneur, mais il faut le répéter tranquillement, gentiment dans son cœur. Je suis la servante du Seigneur. Et l'ange la quitta. Ça, c'est je vous donne un petit truc de l'Écriture divine aussi. Quand vous dites, et l'ange la quitta. En général, quand on commence à dire, maintenant j'ai une demi-heure devant moi, vous allez la voir là pour votre Écriture divine. J'ai une demi-heure, pendant une demi-heure, je vais être avec Dieu. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous aurez l'impression que Dieu va disparaître. Mais c'est exactement ce qui se passe avec Marie. Au moment même où elle dit « Je suis la servante du Seigneur » où elle se rend disponible à Dieu, l'ange la quitte. Ça, c'est quand vous serez moine, c'est plus. Hein. On n'en sait rien.
On n'en sait rien.
Quand vous serez carmélite.
Est-ce que l'heure du goûter?
Oui. Nous, on cherche Dieu. Nous, on se met à sa disposition. Nous, on a l'impression qu'il joue à cache-cache. Donc, avec vous, il va faire pareil. Il va jouer à cache-cache. Alors, persévérez. Je suis la servante du Seigneur et l'ange la quitta. Je suis la servante du Seigneur, et l'ange m'a quitté. Ne craignez pas de répéter ce verset. Vous pourrez lire aussi d'autres références. Vous notez juste les références. C'est dans l'évangile de Jean. Donc vous partirez avec votre petite Bible. Hein. Au chapitre 2.
Dans la Bible.
Les versets 1 à 11, ça c'est tout le texte de l'évangile. Mais en particulier, vous lirez le verset 5. Verset 1 à 11, et en particulier le verset 5, que comme ce petit dernier verset, là, je suis la servante du Seigneur et l'ange l'acquitta, vous répéterez en vous-même. Le verset 5, c'est « Sa mère dit au servant, tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Vous savez, c'est les noces de Cana. Bien, cela imprime aussi dans nos cœurs, dans nos âmes, la disponibilité à l'œuvre de Dieu. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Et pensez aussi à l'Eucharistie. Faites ceci en mémoire de moi. On va aller voir où c'est. Ça, c'est dans... On va chercher chez Jean, ça sera assez intéressant. Jean... 13. Ah, tout à l'heure, c'est Jean 2, 1, 11. Et en particulier, verset 5. Maintenant, je vous dis Jean 13. Jean 13, 15. Et mettez en parallèle ces deux versets. Jean 2, 15, Jean 2, 5, pardon, et Jean 13, 15. Qui était forgé par l'Esprit Saint. Et en voyant que plus son cœur était forgé par l'Esprit Saint, plus il s'est fait accueillant, aussi bien à la grâce, je suis la servante du Seigneur, que aussi à tous les hommes. Femme, voici ton fils, voici ta mère, et à partir de cet instant, Jean, le disciple, l'a pris chez lui. Il y a une intimité de vie à découvrir entre chacun d'entre nous et Marie. Et tout cela découle de son cœur complètement imprégné de l'Esprit. Et puis vous laisserez vous-même imprégné par ces versets, parce que c'est la parole de Dieu, et votre cœur lui-même ressemblera, je vous le souhaite, au cœur de Marie, au cœur immaculé de Marie. On va prendre la petite chance. Si vous partez peut-être comme ça, sauf si les consignes n'ont pas donné. En équipe.